parler d'une question, qu'est-ce qui est juste, hein. Et je voudrais commencer par dire que le mot « juste » est un mot que nous employons quotidiennement et dans des circonstances très diverses, hein, vous le savez. Et lorsque nous employons des mots de ce type, hein, c'est-à-dire des mots qui sont abstraits, qui désignent, dans le cas du juste, des valeurs, eh bien, il y a toujours deux dangers qui nous guettent. Le premier, c'est de savoir qu'on sait ce qu'on dit, hein, en employant le mot juste, et puis de croire qu'on dit toujours la même chose, hein, qu'il n'y a pas plusieurs significations. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il faut commencer par faire une analyse des différents emplois du mot, qui s'emploient dans des domaines différents et qui n'ont pas toujours la même signification. Et en guise d'introduction, je vais vous indiquer 5 définitions du juste. Je les ai classées, disons, de la plus claire à la plus problématique. La vertu morale de justice, un conflit, vous verrez qu'il est nettement moins facile de savoir ce qu'est le juste. Ensuite, je reprendrai systématiquement ces définitions pour essayer d'aboutir à la fin à une définition, mais qui, comme toute définition en philosophie, est provisoire, hein, et appelle la discussion. Premier sens, le plus clair, le plus évident, hein, nous disons que le juste, c'est que chacun soit traité de la même manière par la loi. Donc le juste serait l'impartialité. En effet, nous dénonçons comme particulièrement injuste des décisions arbitraires, par exemple dans les tyrannies, hein, où la loi n'est pas la même pour tous. Voilà donc une première définition du juste. Je ne dis pas que c'est une définition satisfaisante, hein, mais très souvent elle est donnée. Une deuxième définition, nous disons que le juste, c'est l'égalité des droits. Donc l'inégalité des droits, c'est-à-dire le privilège, hein, au sens technique du mot, l'inégalité du droit est particulièrement injuste. Remarquez bien que l'égalité des droits et l'impartialité, ce n'est pas la même chose, hein, puisque nous pourrions par exemple traiter impartialement des citoyens, des individus auxquels on ne donnerait pas du tout de droit. Hein. Donc il ne s'agit pas de la même définition. Nous disons aussi, troisième définition, hein, nous disons que le juste, c'est le fait que si la loi est violée, cette loi qui donne des droits égaux à tous, hein, eh bien celui qui viole la loi doit comparaître devant un tribunal et soit puni, disons en gros, proportionnellement au délit par un juge qui prononce une sentence. Donc le juste, c'est ici plutôt le rétablissement par un juge de l'égalité qui a été détruite, qui a été violée par le délit ou par le crime. Troisième définition du juste, le juste concerne pas seulement les droits, pas seulement les peines, il concerne aussi les biens, les ressources. Donc nous entendons dire souvent que le juste, c'est le fait que chacun reçoivent la part de ressources qui lui est due. Par exemple, à travail égal, salaire égal. Hein. Dans ce cas, le juste, c'est la proportion. La proportion par rapport au travail, la proportion par rapport au mérite, la proportion par rapport aux besoins. On essaiera de voir ces différents cas. Hein. Et il nous apparaît particulièrement injuste, hein, que les femmes, par exemple, à travail égal, hein, gagnent souvent dans le secteur privé moins que les hommes, ou que le mérite au travail ne soit pas récompensé. Enfin, cinquièmement, et c'est le cas le plus problématique, le sens le plus problématique, nous disons que le juste, c'est ce que recherchent des hommes soucieux de moralité, ceux qu'on appelle justement les justes. Ceux qui cultivent des vertus morales, ces vertus morales, vous le savez, qui ne relèvent pas du droit, qui ne concernent pas le juge. On dira par exemple que quelqu'un est juste si, lorsqu'il a été le bénéficiaire d'une aide, par exemple, hein, lorsqu'on l'a aidé, il remercie et se dit prêt à rendre à l'occasion un service équivalent. Hein. On dira au contraire qu'il est particulièrement injuste, hein, s'il répond aux bienfaits par l'indifférence, par le mensonge ou par le vol. Mais souvent, vous le savez, en morale, on se trouve dans d'autres cas, beaucoup plus complexes. C'est pourquoi j'ai dit que ce dernier sens était plus problématique. Des cas beaucoup plus complexes que ceux que je viens de citer. Souvent, un homme juste, c'est celui qui cherche, on le verra dans une délibération, dans un raisonnement, qui cherche à savoir ce qu'est, dans tel cas particulier, le juste. Et pour vous montrer le caractère problématique du juste, j'ai sélectionné 5 conflits sur 5 exemples que je reprendrai à la fin pour vous montrer comment le juste, à ce dernier niveau, au niveau moral, est quelque chose de vraiment très problématique. 5 cas. Le cas A, vous le connaissez presque tous. C'est un chapitre très célèbre des Misérables de Victor Hugo, Une tempête sous un crâne, vous avez dû le lire. C'est Jean Valjean, qui a été un forçat, qui est devenu Monsieur Madeleine, vous le savez, le plus honnête, le plus juste des hommes, un bienfaiteur qui fait vivre toute une petite communauté. Et il est confronté à une situation particulièrement épineuse. Cette situation, c'est la suivante. La police croit détenir l'auteur d'un délit qui, en fait, a été commis, il y a très longtemps, a été commis par Jean Valjean lui-même. Donc la police s'apprête à condamner un innocent. Et Jean Valjean l'apprend. Donc Jean Valjean, Monsieur Madeleine plutôt, se trouve devant ce conflit. Soit il se tait et il laisse la justice condamner un innocent, soit il se dénonce et retourne au bagne. On reprendra ce cas tout à l'heure. Dans ce cas, qu'est-ce que le juste ? Deuxième cas, le cas B, vous l'avez peut-être étudié en philosophie, il est dans un texte très célèbre de Kant qui s'appelle « La critique de la raison pratique ». Et dans ce texte, Kant invente une petite histoire. Il imagine un tyran qui veut tuer un homme innocent, et qui demande à quelqu'un de porter un faux témoignage contre cet homme, sous peine, si je ne fais pas le faux témoignage, d'être tué moi-même. Donc, que dois-je faire? Où se trouve le juste dans un tel cas? Vous voyez que le cas est particulièrement dramatique, peut-être encore plus, parce que c'est ma vie qui est en jeu, que dans le cas précédent. Le troisième cas, c'est un cas réel, que vous connaissez peut-être, c'est celui d'un pilote français engagé dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, il est à Londres, un jour il reçoit l'ordre d'aller bombarder un village français où il y a une division de SS. Or, ce village, il apprend que c'est le village où vivent ses parents, et pas seulement ses parents, mais sa femme et ses enfants, et il se trouve donc devant un cas terrible, c'est-à-dire un conflit là entre son devoir de soldat et puis son devoir de fils, de père, d'époux, etc. Que doit-il faire? Qu'est-ce dans ce cas que le juste? On verra tout à l'heure la réponse qu'il a, après un long raisonnement, vous la connaissez peut-être, qu'il a produite. Le cas D, c'est un cas qui est inventé par moi. Il est complètement farfelu, vous allez voir, mais on peut trouver des cas réels qui correspondent à ce cas farfelu. Imaginez donc qu'un homme passe devant un bâtiment en flammes. Dans ce bâtiment, il y a 100 personnes. Ces personnes vont mourir parce que toutes les issues sont bloquées par le feu, sauf une, mais qui est fermée à clé. Et la clé, c'est un funambule qui la possède. Un funambule qui est juste... Oui, l'histoire est loufoque. Donc, un funambule qui est en train de faire son exercice au-dessus, mais ce funambule... Alors, la personne qui est en bas crie d'envoyer la clé, mais enfin, le funambule, il écoute du hard rock sur son iPod. Donc, il n'entend pas. Et donc, la question que se pose l'individu, c'est « que dois-je faire ?» Comme il se promène toujours avec dans son cartable un revolver, il se dit « est-ce que je dois descendre, à tous les sens du terme, le funambule pour récupérer la clé et sauver sans vie ?» On verra, ce cas est d'une redoutable difficulté, on verra tout à l'heure. Enfin, un dernier cas, Un dernier cas qui a été inventé par William Styron, que vous connaissez peut-être, un romancier américain, dans un livre qui s'appelle « Le choix de Sophie hein. ». C'est le cas d'un médecin SS sadique qui demande à Sophie, qui est prisonnière dans un camp nazi, il lui demande de choisir lequel de ses deux enfants le médecin doit faire mourir. Où est le juste ? Qu'est-ce dans ce cas que le juste ? Voilà en guise d'introduction, je pense que vous voyez que la question du juste est une question à la fois économique, quand j'ai parlé de la distribution des ressources, juridique, juridico-philosophique, quand j'ai parlé de l'égalité des droits, mais c'est aussi une question morale hein, dans le cinquième point. Je vais donc reprendre, mais de manière inégale, chacun de ces points, et je commencerai par l'impartialité. Donc on pourrait penser d'abord que le juste, c'est ce qui est impartial. Prenons par exemple le cas des lois. Donc nous faisons la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime, et nous ne considérons pas que toute loi est juste. Et parmi les conditions qui font qu'une loi nous apparaît légitime parce que juste, eh bien, il y a évidemment l'impartialité. Une loi qui traite un homme différemment d'un autre est une loi partiale, et nous considérons qu'elle est particulièrement injuste. Ceci dit, je crois qu'on peut faire deux objections, et je l'ai laissé entendre tout à l'heure, à cette définition du juste qui est très insuffisante. La première, bien évidemment, c'est que l'impartialité est une condition peut-être nécessaire, mais n'est pas une condition suffisante. Pour définir le juste, pensez par exemple qu'une majorité, c'est tout à fait possible, pourrait voter une loi démocratiquement, qui nous ôterait presque tous les droits et les libertés dont nous jouissons aujourd'hui, et cette loi serait impartiale, puisqu'elle traiterait tous les hommes de la même manière, mais la plupart d'entre vous, j'imagine, la considéreraient comme particulièrement injuste. Donc disons que l'impartialité paraît être une condition seulement nécessaire. Et un deuxième argument, et j'en terminerai avec l'impartialité, parce que ce n'est pas le plus important, le deuxième argument, c'est un peu plus complexe, c'est qu'il y a eu de nombreuses lois dans l'histoire hein, qui ont traité les hommes de manière impartiale, mais sur la base de distinctions, sur la base d'inégalités entre les hommes. Je veux dire par là que, si comme dans la Grèce antique, on considère qu'il y a des citoyens qui ont un certain nombre de droits, hein. Des femmes qui ont moins de droits ou pas les mêmes, des esclaves qui ont aussi un certain nombre de droits, mais pas du tout les mêmes que ceux des citoyens. Alors on peut traiter impartialement chacune de ces catégories, hein. C'est-à-dire on traite tous les citoyens comme des citoyens, toutes les femmes comme des femmes, toutes les esclaves, tous les esclaves comme des esclaves. Hein. Par exemple, on considérera, il y a pas mal de textes de la Grèce antique hein, qui le disent, on considérera qu'il est injuste de maltraiter un esclave. C'est-à-dire de le traiter cruellement, on demandera qu'il soit traité comme on doit traiter un esclave. Vous voyez donc que l'impartialité, dans ce cas, est un peu perverse, en quelque sorte, hein, parce qu'elle repose sur une inégalité, comme c'est le cas, pour prendre un autre exemple, dans le système des castes. Alors, j'en tirerai la conclusion, et j'abandonne l'impartialité, j'en tirerai la conclusion que nous ne considérons pas, aujourd'hui, hein, que le juste, ce soit seulement l'impartialité. Nous considérons que le juste n'existe que là où les hommes sont traités à égalité, mais surtout sont traités comme également libres. Et c'est ce deuxième point que je voudrais aborder maintenant en parlant de l'égalité des droits. Je rappelle, mais vous le savez par les cours d'histoire, par les cours d'économie, par les cours de philosophie, je rappelle que l'Occident a peu à peu pensé que tous les hommes sont également libres. Alors c'est une très longue histoire, dont je ne vais pas rappeler tous les épisodes, hein, qui commence avec la démocratie athénienne, où quelques-uns sont libres, hein, qui se prolonge par, pour ceux qui l'ont étudié en philosophie, la philosophie stoïcienne, hein, qui se continue par le christianisme. Vous connaissez peut-être cet extraordinaire texte de Saint Paul, hein, où Saint Paul dit « Nous ne sommes ni grecs, ni juifs, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, nous sommes fils de Dieu. » Alors que vous croyez ou non en Dieu et au concept de fils de Dieu, ça n'a aucune importance. Hein.
Ce qui est important, c'est que là, il y a une extraordinaire reconnaissance, hein, un grand moment de l'histoire humaine, une reconnaissance de l'égalité des hommes et l'égale dignité des hommes. Alors cette histoire, qui commence, vous le voyez très tôt, a débouché au XVIIIe siècle sur une définition du juste qui est l'égalité des droits. Tous les hommes doivent être traités donc comme égaux et comme également libres. Vous savez que c'est le début de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française, et c'est encore le socle de notre société, de ce que nous appelons le juste, même si nous allons plus loin peut-être dans la définition du juste. Donc nous considérons que les privilèges, au sens propre du mot, hein, l'inégalité des droits, sont la marque la plus sûre de l'injustice, même si nous ne réduisons pas la justice à l'égalité des droits. Ceux qui, parmi vous, ont étudié le philosophe américain John Rawls, qui a écrit un livre qui s'appelle « La théorie de la justice », vous savez que parmi le socle des valeurs de notre société, eh bien, il reconnaît ce qu'il appelle le premier principe de la justice. Le premier principe de la justice, c'est que tous les hommes aient le plus grand nombre de libertés. Le plus grand nombre de libertés, hein, pas toutes les libertés, parce qu'évidemment ces libertés doivent être compatibles entre elles. Alors il faut ajouter quelque chose d'important, c'est que nous ne considérons pas non plus comme totalement juste une loi qui donnerait le maximum de droits, mais qui ne serait pas l'émanation de la volonté de tous. Et là je vais insister beaucoup sur ce point, et je pense que vous comprenez pourquoi, parce qu'en fait, hein, une telle loi, elle ne donnerait pas les mêmes droits à tous, hein, puisqu'elle donnerait à tous les mêmes droits civils, par exemple la liberté d'entreprendre, la liberté de conscience, la liberté de se déplacer, mais elle ne donnerait pas à tous les mêmes droits politiques, hein, puisque seuls certains prendraient la décision. Hein, on aurait une décision un peu paternaliste, hein, qui consisterait à ce que seuls certains aient le droit de vote, par exemple, hein, et donnent à tous les autres droits. Voilà pourquoi le juste, pour nous, aujourd'hui, après toute une histoire, hein, c'est la loi qui donne le maximum de droits à tous, mais cela dans une société démocratique où les citoyens jouissent tous aussi des mêmes droits politiques. J'ajoute pour terminer deux précisions que je l'ai indiquées dans le PowerPoint, là, sous le titre « La Constitution et les textes juridiques internationaux ». La première précision, c'est que l'égalité des droits ne va pas, nous l'avons appris progressivement, hein, les gens du XVIIIe siècle ne le savaient pas, mais ne va pas non plus sans l'égalité des chances. Puisque une égalité des droits qui serait purement formelle, où vous n'auriez pas les moyens d'exercer ces droits, serait une égalité des droits vide, hein, ce serait sur un droit sur le papier. Hein. On reparlera éventuellement du lien entre égalité des droits et égalité des chances. Et puis la deuxième remarque, donc c'est celle que j'ai indiquée sous la Constitution et les textes juridiques internationaux, bien c'est que la définition du juste, hein, telle que je viens de les définir, c'est ce que les peuples consignent dans un texte qui s'appelle une constitution. Cela pour une raison que vous connaissez sans doute, c'est que les peuples se méfient d'eux-mêmes. Ils ont bien raison de se méfier d'eux-mêmes. Exactement comme vous vous souvenez peut-être de cette magnifique histoire racontée dans l'Odyssée, hein, d'Ulysse qui se méfie de lui-même, hein, parce qu'il a envie d'écouter le chant des sirènes, mais il sait que s'il plonge dans la mer, il va mourir. Hein. Donc vous savez ce qu'il fait ? Il se fait attacher au mât, il met de la cire dans les oreilles de ses marins, et il leur dit « Surtout, si je crie « Détachez-moi, détachez-moi », ne me détachez pas ». Une constitution, c'est la même chose. C'est un peuple qui sait que, par exemple, dans une situation comme aux États-Unis, par exemple, après les attentats de 2001, hein, un peuple peut se méfier de lui-même, peut se méfier de ses réactions trop rapides, trop brutales, hein, et donc il crée un texte fondamental qui, par exemple, en France, mais c'est le cas un peu partout, est surveillé, hein, dont l'application est surveillée par le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême aux États-Unis, et puis un texte en même temps qu'on ne peut pas transformer très facilement. Hein. Vous savez qu'il faut une super majorité, hein, par le Parlement réuni à Versailles pour modifier la Constitution. Et j'ajoute enfin que ce juste, hein, tel que je viens de le définir, non seulement il est en quelque sorte sacralisé dans des textes constitutionnels, mais il est aussi sacralisé dans des textes internationaux. Vous connaissez tous la déclaration universelle, ce n'est pas la déclaration française, hein, la déclaration universelle des droits de l'homme, et puis d'autres textes. Hein. Par exemple, l'Europe récemment a voté, intégré dans le traité de Lisbonne, une charte des droits fondamentaux. Hein. Voilà donc la deuxième définition, mais j'ai dit qu'elle n'était pas suffisante, hein, même si c'est, je crois, la base de notre société. En effet, je voudrais aborder maintenant une troisième définition en parlant du rôle du juge. Cette fois non plus le juste dans la distribution des droits au niveau de la loi, mais au niveau de la sentence. Hein. Donc, nous appelons juste non seulement la distribution des droits, mais le juste concerne aussi, comme le fait remarquer Aristote, hein, la distribution des peines, quand la loi a été violée. Ceux qui connaissent Aristote savent qu'il fait la distinction entre la justice distributive et puis la justice correctrice, qui rétablit l'égalité qui a été détruite par le délit ou le crime. Là encore, donc, la justice, c'est l'égalité, mais c'est plutôt, cette fois, le rétablissement de l'égalité, hein, par l'amende ou la peine de prison. Et vous savez que cette égalité est évidemment très grossièrement calculée. Hein. Dans les textes de l'Antiquité, vous avez tous entendu parler de cet adage, hein, œil pour œil, dent pour dent. Hein. Dans les textes de l'Antiquité, c'est une identité, une équivalence assez mécanique. Entre parenthèses, il ne faut pas faire d'erreur, hein, sur œil pour œil, dent pour dent. Vous savez que c'est une formule de justice, hein, et non pas de vengeance. Hein. C'est une formule de justice qui, en fait, revient à dire il ne faut pas prendre plus que l'œil, ou plus que la dent. Hein. C'est une justice, c'est une formule qui modère, d'une certaine manière, l'équivalence, même si nous n'acceptons pas, évidemment, c'est une formule qui est très grossière pour nous, hein. Nous avons une sorte d'équivalent universel, hein, qui est le temps de prison, hein. Mais nous n'allons pas couper la main à quelqu'un qui a volé une pomme, hein, bien évidemment. Donc, nous ne reprenons plus cette formule simpliste, hein, mais nous admettons que le juste, c'est l'équivalence du délit et de la peine, et c'est pourquoi une sentence nous apparaît injuste si elle est trop disproportionnée. Je voudrais ajouter quelque chose avant d'en terminer avec ce troisième point. Je crois qu'on ne peut pas s'en tenir à cette remarque. En effet, que voulons-nous dire quand nous disons qu'une sentence, une décision de justice, est juste? Alors, nous voulons dire, bien sûr, qu'elle a été prise conformément à la loi, conformément à une procédure qui est dans la loi. Nous voulons dire aussi qu'elle applique une loi que nous considérons elle-même comme juste. Nous voulons dire aussi que le juge prononce une peine, je l'ai dit, en gros proportionnelle au délit. Mais nous voulons dire aussi autre chose. Hein. En effet, le travail du juge, comme vous le savez, comme Aristote le dit, ce n'est pas de faire la loi, mais ce n'est pas non plus de l'appliquer mécaniquement. C'est-à-dire, le travail du juge, c'est d'appliquer la loi à des cas particuliers. Un exemple, nous sommes tous d'accord, hein, j'imagine, pour dire qu'il faut punir par une petite amende, hein, un petit vol. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un crime doit être payé par une peine de prison. Hein, mais cela ne suffit pas. Le juge existe, hein, parce que cet accord ne suffit pas. Si cet accord suffisait, la sentence pourrait être rendue par un ordinateur, par exemple, hein, ou par un fonctionnaire. Alors bon, le juge est un fonctionnaire, mais enfin par une secrétaire, par exemple, dans un bureau. Hein. Donc le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il considère un homme particulier, dans une situation particulière, avec un passé particulier, et vous savez qu'il sous-pèse le pour et le contre, hein, pour rendre finalement une sentence équilibrée, une peine appropriée au cas particulier. Aristote appelait ça l'équité, cette vertu du juste. Le juste, non pas seulement, hein, le rétablissement de l'égalité, la proportion, hein, entre le délit et la peine, le juge, c'est l'équité. Le juste, c'est l'équité. Alors, j'ai pris l'exemple du juge, hein, mais je pense que vous voyez que c'est quelque chose qui vaut au-delà de ce troisième niveau-là, au-delà du niveau de la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais définir le juste par la loi seulement. Pensez par exemple qu'au niveau de la morale, quand vous appliquez une loi morale à laquelle vous tenez, vous l'appliquez avec souplesse. Alors naturellement, ça ne veut pas dire l'appliquer avec faiblesse. Mais vous essayez de peser le pour et contre, vous menez tout un raisonnement pour voir comment, étant donné l'intention de la personne qui est en face de vous, étant donné quelles sont les circonstances, comment vous allez appliquer cela, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous avons une troisième définition du juste, mais les économistes parmi vous savent qu'il y a une autre dimension du juste qui ne concerne plus les droits, comme dans la définition 2, qui ne concerne plus les peines, mais qui concerne les biens, les ressources. Et l'actualité récente, par exemple les mouvements sociaux qu'on a vu se développer, vous en souvenez, à l'automne autour des retraites, nous ont montré que le juste ne se réduit jamais dans nos sociétés à l'égalité des droits. Donc nous considérons que les ressources doivent être distribuées d'une manière juste. Nous considérons par exemple comme injuste, je l'ai dit, que les femmes à travail égal gagnent quelquefois 20 à 30% de moins que les hommes. Et Aristote, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, avait déjà dans l'Éthique à Nicomaque distingué entre ce qu'il appelle l'égalité simple, celle dont j'ai parlé à propos de la distribution des droits, et puis une égalité plus complexe, qu'il appelait l'égalité géométrique, qui est la proportion. La proportion, en effet, parce que pour ce qui est de l'égalité des ressources, la formule n'est pas à chacun autant. Alors, sauf si vous êtes d'un égalitarisme forcené, pour vous, la justice au niveau de la rémunération, ce n'est pas à chacun autant, c'est plutôt à chacun selon. Mais sur ce point, nous sommes tous d'accord. Mais c'est à partir de là que commencent les difficultés. Selon quoi? Selon le travail, selon le mérite, selon le besoin. Alors, on peut dire selon le travail. Bien sûr, oui, selon le travail, si les travaux sont identiques. Mais qu'en est-il si les travaux sont différents? À chacun selon son mérite, on pourrait dire. Mais qu'est-ce exactement que le mérite? Par exemple, comment va-t-on comparer le mérite, mettons, d'un grand chercheur scientifique qui fait une découverte fondamentale pour l'humanité concernant la guérison du cancer, et puis quelqu'un qui invente un petit gadget, agréable certes, mais qui est un gadget, puis qui fait une fortune fondamentale, il n'y a pas de commune mesure entre ce que gagnera le scientifique, qui est moyennement payé en France, et puis l'inventeur du gadget. Qu'est-ce que c'est exactement que le mérite? Alors, ceux d'entre vous qui sont les plus libéraux parmi les économistes, là, pourraient dire, ils pourraient reprendre un argument qu'on trouve, par exemple, chez un grand économiste qui a eu le prix Nobel, qui s'appelle Friedrich Hayek, qui pourrait dire, mais c'est pas ça le problème. En réalité, le problème, c'est que le prix, le salaire que vous recevez, ne fait que refléter la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, vous pourriez rappeler une théorie qui est bien connue, que les économistes appellent la théorie du salaire signal, ou du prix signal. C'est-à-dire que si vous travaillez dans tel ou tel domaine, que votre salaire baisse régulièrement, ça ne veut pas dire que vous travaillez mal. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas. Au contraire, il se peut que vous travaillez beaucoup plus qu'un autre. Ça veut dire tout simplement que votre produit, que ce soit des chaussures ou de la philosophie ou autre chose, ne trouve plus preneur ou que d'autres, vous êtes concurrencé par des gens que vous ne connaissez même pas, très loin de chez vous. Alors, évidemment, cette théorie, elle peut paraître intéressante, mais en même temps, elle revient à dire, vous le voyez, et Hayek le dit très précisément, qu'il n'y a pas de juste en matière de rémunération. Hayek dit très clairement qu'il n'y a pas de justice sociale, et j'imagine que vous n'êtes pas prêt à admettre cette idée qu'il n'y a absolument aucune justice en matière de rémunération. C'est pourquoi on peut explorer d'autres choses. Par exemple, à chacun selon ses besoins. Oui, mais comment mesurer le besoin? Comment mesurer le besoin? Si je vous dis, par exemple, il y a des cas qui sont faciles, si je vous dis que j'ai besoin à chaque déjeuner d'une bouteille de champagne. Vous allez me dire, non, ce besoin-là, je ne veux pas entendre parler. Si par contre, je meurs de faim et que j'appelle à l'aide, vous allez dire, oui, vous êtes dans le besoin. Oui, mais justement, les cas, le diable est dans les cas intermédiaires, hein, pour parodier une formule, le diable est dans les détails. Hein. C'est justement les cas intermédiaires qui sont difficiles. Qu'est-ce que c'est que le besoin? Est-ce qu'on peut vraiment fonder une redistribution des biens sur une mesure des besoins? Alors, je ne vais pas davantage développer ce troisième point, parce que sans doute on en parlera. Hein. La conclusion que je voudrais tirer, c'est simplement qu'il est souvent très difficile, quand on sort des cas très simples, hein, très difficile de dire ce qu'est une distribution juste des ressources. Par exemple, tout le monde en France est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut un filet de sécurité pour soulager ceux qui sont dans la misère à cause de la malchance, à cause de la maladie, à cause du chômage, etc. Mais au-delà commencent les polémiques. Qu'est-ce qui est juste en matière de salaire minimal, par exemple? Et si l'on prend des lois ou des mesures très très complexes, comme par exemple la réforme des retraites, dont je parlais tout à l'heure, vous avez sans doute remarqué que des deux côtés, hein, c'est au nom de la justice qu'on argumentait. Hein. C'est-à-dire ceux qui étaient pour cette réforme disaient qu'il est injuste de faire payer aux générations à venir une charge trop lourde. Dans les générations à venir, c'est ce qu'on appelle en philosophie les personnes potentielles. Hein. Mais ceux qui étaient contre la réforme disaient qu'il est injuste de faire payer à telle ou telle catégorie de travailleurs et pas à telle autre les retraites. Hein. Alors je ne prends pas position, mon rôle n'est pas de prendre position là-dedans, c'est simplement de vous indiquer qu'il y a deux revendications, deux concepts de justice. Alors vous pourriez bien sûr penser qu'on pourrait sortir de cette difficulté exactement comme on sort de la difficulté dans le cas de la justice, c'est-à-dire en faisant appel à un juge, comme dans le cas de la distribution des peines. Vous avez vu comment on sort de cette difficulté dans le cas précédent. Mais ce tel juge, dans le cas de la distribution des peines, bien, il n'existe pas. Ou plutôt, le juge, c'est le peuple lui-même. C'est-à-dire que ce sont les citoyens, par exemple, qui, dans une démocratie, évidemment, fixent le montant des divers impôts, des diverses allocations, bref, de tout ce qui permet une redistribution de ce que vous gagnez. Hein. Ce sont eux qui adoptent ou n'adoptent pas les mesures visant à corriger des inégalités ou ce qu'on peut estimer des inégalités dues au marché. Hein. Et ils le font donc par l'intermédiaire de leurs représentants élus, mais aussi, vous le savez, par l'action des partis politiques, des syndicats, des manifestants dans la rue. Hein. Et ils le font, j'insiste beaucoup, sur la base de traditions culturelles différentes. Hein. Pensez par exemple que ce qui est injuste pour un Français, pour un citoyen français, en matière d'inégalité de salaire, hein, je ne parle pas de droit, hein, n'est pas forcément injuste pour un citoyen anglais ou pour un citoyen américain. Entre parenthèses, je vous signale quelque chose, un problème dont je n'ai pas parlé, mais dont je suis en train de parler implicitement. C'est-à-dire, c'est la question, le juste est-il universel ou non? J'ai essayé de vous montrer que l'égalité des droits, elle est universelle, quasi universelle. Tout le monde ou presque a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, lorsqu'il s'agit du juste en matière de rémunération, de ressources, hein, là, on est loin d'une solution universelle. On est plus près de ce que Pascal disait, vous vous souvenez, dans un texte célèbre, hein, plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. On reprendra peut-être ce problème. J'en viens pour terminer au problème le plus difficile, c'est la vertu morale de justice. Le problème le plus difficile, d'abord parce qu'il faut rappeler ce qu'est la morale. Hein. La morale se distingue du droit en ce qu'elle est un ensemble de lois qu'une société se donne pour régler des rapports à autrui, mais des rapports particuliers à autrui, ceux que ne règle pas le droit. Hein. Par exemple, la politesse n'est pas réglée par le droit. Vous n'allez pas au tribunal si vous êtes impoli, hein, bien évidemment. Et cette morale intervient tous les jours, donc dans nos rapports avec autrui, et elle est ce qui contribue à les rendre pacifiques, à les rendre plus faciles, ce qui établit la confiance au sein d'une société. Pensez à la règle qui interdit le mensonge, par exemple. Cela peut être, dans certains cas, une règle juridique, dans des cas très précis, publicité mensongère, établissement d'un contrat, etc. Mais la plupart du temps, c'est une règle morale, une règle qui nous permet de collaborer, de compter sur quelqu'un. Si je dis à un ami que je vais l'aider à déménager samedi, ou que je lui rendrai dans 2 jours l'argent qu'il m'a prêté, bien l'ami en question peut compter sur moi, me demandera des services équivalents peut-être une prochaine fois. Mais vous savez que dans le cas de la morale, et c'est ce qui rend le juste bien difficile, les lois sont bien plus vagues que dans le cas de la loi. C'est-à-dire que nous n'avons pas en morale l'équivalent d'un code juridique. Nous n'avons pas le Dalloz de la morale. Le Dalloz, c'est le gros volume rouge dans lequel sont toutes les lois. À la place, nous avons quelque chose de très complexe, mais qu'on désigne par un mot très simple que vous avez analysé en philosophie, mais qui pose de redoutables problèmes. Nous avons ce qu'on appelle une conscience morale. Et contrairement à ce que dit Rousseau dans un texte très très célèbre de l'Émile, cette conscience n'est pas un instinct divin. Vous connaissez peut-être ce texte, conscience, instinct divin, juge suprême du bien et du mal, juge infaillible du bien et du mal. Pourquoi je me permets d'aller contre Rousseau ici? Vous pouvez trouver que c'est peut-être un peu présomptueux. Mais je veux dire que cette conscience morale, elle consiste en un ensemble très complexe de règles qu'admettent un individu et de raisonnements qu'il fait, seul ou avec d'autres. Avec d'autres, pensez aux raisonnements qu'on fait dans les comités d'éthique pour déterminer si, par exemple, l'avortement doit être autorisé ou l'euthanasie. Donc un ensemble très complexe de raisonnements, donc ce n'est pas un instinct, de raisonnements qu'on fait pour appliquer ces règles et parfois même pour les redéfinir. Donc vous voyez aussi ici que le juste ne consiste pas en un ensemble de lois et de règles prédéterminées. Nous avons bien sûr des règles morales, par exemple ne pas mentir. Mais on sait bien que dans certaines circonstances, pour sauver un ami, par exemple, qui serait recherché par une armée d'occupation, nous acceptons de mentir. Et Aristote employait un mot qu'on traduit par prudence, mais c'est prudence dans un sens qui n'est pas le sens contemporain. Il employait le mot grec de phronesis pour désigner ce qu'il appelle un art. Ce n'est pas une science, un art, c'est-à-dire l'art d'appliquer les règles morales au cas particulier. Je vous donne un exemple. Il dit ceci dans l'Éthique à Nicomaque, il est juste de se mettre en colère. Mais il ajoute ceci, pas facile de définir comment, contre qui, pour quel motif et combien de temps il faut être en colère. C'est-à-dire qu'on peut être en colère par excès ou par défaut. Si parce qu'on vous a marché sur les pieds, vous êtes en colère pendant 6 mois contre quelqu'un, et que vous passez votre colère sur le chat ou sur le vase du XVIIIe siècle qui est dans le séjour, votre colère est disproportionnée et pathologique. Si par contre, tout près de chez vous, dans une société voisine, vous avez des cas terribles de torture, et que vous restiez dans l'indifférence, on pourra penser que vous n'êtes pas assez en colère. Dans ce cas-là, vous voyez que le juste, c'est une certaine moyenne. Un certain équilibre. Je terminerai en disant que, depuis Aristote, nous avons découvert, et je vais revenir à mes 5 cas dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons découvert que la situation est encore plus complexe que ne le disait Aristote. C'est-à-dire que, non seulement il nous faut appliquer des règles au cas particulier, on vient de le voir, mais il arrive aussi que nous nous trouvions devant plusieurs règles de justice, difficilement compatibles entre elles. Notez bien qu'on l'a déjà vu au niveau de la distribution des ressources. La distribution des ressources, c'est une sorte d'équilibre que nous trouvons entre à chacun selon son travail, à chacun selon son besoin. Par exemple, on compense la logique du marché par les allocations familiales. Donc on essaie de trouver une sorte d'équilibre. Bien, la même chose se passe au niveau de la morale. On peut se trouver devant des conflits, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le juste, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être ce que vous déterminez vous-même par un raisonnement individuel ou collectif, et un raisonnement qui vous permet d'arriver à une solution équilibrée, disons, qui n'est jamais une solution certaine, qui peut toujours être remettre en cause, soit par vous, soit par la collectivité. Et je voudrais pour terminer revenir sur les 5 exemples et vous dire comment ils ont été résolus. Le premier, Jean Valjean. Jean Valjean doit choisir donc d'une part entre son confort, son bonheur, et même peut-être son existence, parce qu'il va mourir au bagne, et le sacrifice d'un innocent. Notez bien que ce n'est pas encore un conflit moral. Ça, c'est simplement la difficulté d'être moral. Mais c'est quand même un conflit moral parce que vous savez qu'il va perdre sa liberté, il va payer, il va faire une double peine en quelque sorte, parce qu'il a déjà payé. Et puis d'autre part, c'est un conflit moral parce qu'il fait vivre toute une petite communauté et que s'il se livre à la police, il va bien sûr sauver un innocent, mais il va en même temps mettre en péril tous ceux qui dépendent de son activité. Une tempête sous un crâne. Je vous invite vraiment à lire ce texte de entre parenthèses, je fais de la pub pour le livre électronique. Je n'avais pas il y a quelques jours, là, je ne retrouvais pas ou je n'avais pas Les Misérables. Donc je l'ai acheté sur un site électronique, la totalité des Misérables dans ce livre électronique pour 1,99$. Bon. Ça vous montre quand même que le livre électronique a de l'avenir. Bon, c'est une parenthèse. Donc, vous savez sans doute, relisez ce magnifique texte, Une tempête sous un crâne. Finalement, vous savez que Jean Valjean ira se livrer. C'est un peu plus compliqué, mais il se livrera quand même. Quant à l'homme dont parle Kant, vous savez, le chantage du tyran. Bon, bien sûr, vous pourriez dire, je ne sais pas ce que je ferais. Je sais ce que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est que je ne peux pas faire périr un innocent. Donc il vaut mieux que je sacrifie ma vie. Je ferai peut-être le contraire. Enfin, la morale me demande de sacrifier ma vie parce que je ne peux pas être le complice du tyran. Ceci dit, imaginez quelqu'un. Il soit un petit peu plus retors et un petit peu plus intelligent, peut-être. Imaginez que je dise, oui, mais si j'accepte de périr, qu'est-ce qu'il va faire le tyran ? Il va demander la même chose à un deuxième homme. Si le deuxième homme va réagir comme moi, c'est-à-dire accepte de périr, il va le demander à un troisième homme, puis à un quatrième, puis à un cinquième. Et au total, imaginons que le énième, lui, refuse de périr, c'est-à-dire sacrifie l'innocent. Et ce énième, il arrivera, nécessairement. Mais qu'est-ce qu'on aura à gagner, On aura gagné qu'on aura n morts au total, n-1, plus l'homme que voulait faire périr le tyran. Vous pouvez me dire que c'est un drôle de raisonnement, c'est un raisonnement trop intéressé pour être honnête. Il n'en demeure pas moins que, vous voyez, c'est un cas extrêmement difficile. Les philosophes ont écrit toute une littérature là-dessus. C'est un cas extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui est juste dans ce cas-là. Troisième cas, mon cas farfelu du funambule. Alors là, je ne sais pas. C'est d'autant plus difficile à résoudre que, par exemple, ce ne serait pas la même chose, essayez de faire varier le problème. Au lieu de mettre 100 hommes qui vont mourir, vous en mettez un. Bon, dans ce cas-là, vous direz, un contre un, on ne va pas tuer le funambule. Si vous en mettez 10, si vous en mettez 15, si vous en mettez 5000, et si au lieu de 100 personnes, 100 adultes, ce sont des enfants, comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez accepter de sacrifier un innocent pour sauver? Est-ce que l'arithmétique compte en matière de justice? Je ne réponds pas à cette question. C'est une question très difficile et très différente de cas apparemment semblables. Parce que vous avez peut-être pensé à un cas apparemment semblable. Ce n'est pas du tout le même. C'est le cas des avions, d'un des avions, le troisième avion, qui devait, en 2001, s'écraser sur le Pentagone. Vous savez qu'une des hypothèses, parce que l'autre, c'est que l'armée américaine a descendu l'avion, une des hypothèses, c'est que les gens dans l'avion ont eu par SMS ou ont eu par téléphone la connaissance de l'attentat des Twin Towers, qui avait eu lieu quelques minutes avant, et ils savaient qu'ils allaient s'écraser sur le Pentagone. Mais ce n'est pas le même cas. Donc ils ont fait tomber eux-mêmes l'avion, probablement, hein, mais de toute façon, ils étaient perdus. Donc le raisonnement est quand même assez différent hein, de celui que j'ai inventé. Le quatrième, le cinquième plutôt, hein. Le troisième que j'oubliais, le pilote de la RAF, magnifique, magnifique. Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette histoire. Vous savez ce qu'a fait, certains savent ce qu'a fait le pilote de la RAF. Il a fait savoir, après une délibération, c'est pas un instinct, il n'a pas de conscience qui est un juge infaillible du bien du mal. Il a pesé le pour et le contre, et il a dit à ses supérieurs, j'accepte que mon père, ma mère, mes enfants, ma femme soient tués, mais je n'accepte pas qu'ils soient tués par moi. Et cette réponse a été acceptée par ses supérieurs, donc le village a été bombardé, mais pas par lui-même. Oui, je vois que certains trouvent cela dur, très dur. Hein. Mais n'oubliez pas quand même que c'est la liberté, c'était la liberté qui était en jeu, hein. C'était l'égalité des droits dont on parle, hein. C'était la justice. Il a pris une décision qu'on peut estimer juste pour sauver la justice au sens de l'égalité des droits. Elle est discutable, hein. On peut la discuter. Le dernier cas, celui de Sophie, je crois que c'est le cas, et je terminerai par là, c'est le cas peut-être le moins difficile. Et à la limite, on peut se demander s'il est vraiment pertinent. C'est-à-dire qu'elle est dans un tel problème, Sophie, dans un tel dilemme, dans une telle difficulté, que la meilleure chose pour elle, c'était peut-être de tirer au sort, hein, le nom de l'enfant qui allait être tué. On peut se demander s'il y a vraiment un dilemme moral. Alors, j'ai évoqué tous ces exemples. Je voudrais faire une toute petite conclusion sur le cinquième point. J'ai évoqué tous ces exemples hein, pour vous montrer que être juste, lorsqu'il s'agit de morale, suppose une délibération, suppose un choix, une longue activité de délibération individuelle et collective. Alors naturellement, nous ne sommes pas toujours devant des cas aussi dramatiques, heureusement. Mais vous pouvez vous trouver dans votre vie devant des cas assez aigus quand même, assez difficiles. Et dans ce cas-là, la discussion avec autrui, la comparaison des différentes solutions raisonnables possibles. Je dis des différentes solutions raisonnables, parce qu'il peut y avoir des solutions aberrantes. Prenez par exemple, je ne sais pas, l'euthanasie ou l'avortement. Vous avez des solutions à l'évidence absurdes. Par contre, vous avez des solutions raisonnables. Est-ce qu'il faut, par exemple, autoriser l'avortement à partir de 9 mois, 12 mois, jusqu'à 9 mois, 12 mois? C'est d'ailleurs variable selon les pays. Pardon. 12 semaines, 9 semaines, 12 semaines. Il y en a qui commençaient à douter de mes connaissances en biologie. Mais 9 semaines, 12 semaines, ben c'est variable selon les pays. Et puis il y a des arguments, on peut échanger hein, là-dessus. Et des arguments où interviennent les philosophes, les théologiens, les médecins, etc. Avant d'ouvrir le débat, je résume. Je résume donc en disant que j'ai dégagé 4 concepts de juste. Je les répète rapidement. Nous appelons juste une loi qui d'abord est impartiale, mais ça c'est la condition sine qua non, hein, c'est la condition nécessaire, une loi qui est impartiale, mais qui donne le maximum de droits à tous et qui est issue de la volonté du peuple. Une loi donc démocratiquement élaborée. Le juste, c'est l'égalité des droits et aussi l'égalité des chances, hein, sans laquelle cette égalité des droits n'est rien. Attribuée par des hommes libres à des hommes libres. Voilà ma première définition du juste. La deuxième, je dis que nous appelons juste une sentence qui vise à corriger l'inégalité introduite dans les délits et les crimes. Le juste, en ce sens, c'est une égalité particulière qu'Aristote appelle équité, donc le rétablissement de l'égalité réalisée dans une situation toujours particulière, hein, et une équité qui est déterminée par un juge, hein, dans une argumentation juridique, là aussi dans une délibération. Troisièmement, nous appelons juste une distribution des ressources grossièrement proportionnelle. Grossièrement proportionnel au travail, au mérite, aux besoins. Je dis grossièrement parce que je crois qu'il est vain de trouver une formule magique. Regardez comment nous procédons dans nos sociétés, j'ai dit tout à l'heure, hein, nous équilibrons. Si par exemple un homme fait le même travail qu'un autre, à travail, à qualité de travail égale, hein, le même type de travail, s'il fait, il sera payé également, il sera payé comme l'autre. Hein. Mais par exemple, s'il est célibataire, hein, et que l'autre a trois enfants, bien ses allocations familiales ou ses impôts seront différents. Hein. Vous voyez que nous équilibrons ces différents critères pour arriver à une solution qu'une société juge acceptable. Enfin, nous appelons juste, quatrième point, nous appelons juste des actions particulières, hein, ces actions que nous appelons morales, qui nous commandent de respecter les hommes, parce qu'ils sont des êtres libres, mais aussi et surtout des actions morales qui résultent d'une délibération, hein, où nous essayons de concilier différents aspects du juste. Le juste dans ce cas, c'est une certaine moyenne. Une moyenne toujours discutable qui peut être reconsidérée par celui qui est à l'origine de l'action et par les autres. Donc j'espère vous avoir montré que finalement on peut définir le juste, hein, par quatre autres concepts. Je l'appellerai l'égalité pour les droits, l'égalité des droits, hein, l'équité pour les peines, la proportion pour le salaire, et puis faute de trouver un meilleur mot pour les décisions morales, l'équilibre. Hein. Voilà, me semble-t-il, comment on peut définir le juste, hein, et ce qui unifie ces quatre définitions, c'est bien évidemment le fait que nous ayons reconnu, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que les hommes sont tous également libres. Mais vous voyez que dire que les hommes sont tous également libres, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut décliner cette formule, hein. Il faut savoir quels droits nous allons nous donner, comment nous allons concevoir les peines, comment nous allons distribuer les salaires, comment au niveau moral nous allons agir. J'ai laissé enfin une question, certains l'ont remarqué sans doute, hein, particulièrement difficile, mais parce que je n'ai pas le temps de l'aborder ici, c'est la question du fondement ultime du concept de justice, hein. C'est-à-dire pourquoi nous considérons-nous comme des êtres également libres? Comment nous pouvons justifier cela? Comment nous pouvons justifier, par exemple, la déclaration des droits de l'homme? Ça, vous le savez que c'est une question philosophique par excellence, c'est la question du fondement de la morale, hein. Ceux qui ont étudié, par exemple, les fondements de la métaphysique des mœurs, hein, le savent. C'est la question du fondement du droit aussi, hein. C'est une question que je laisse prudemment de côté. On en parlera peut-être, hein. Je considère bien que il y a un accord de l'humanité. Regardez ce qui se passe de magnifique en ce moment, hein, dans les pays arabes, hein, où nous avons des gens qui se révoltent au nom de l'égalité des droits et qui demandent à avoir des droits égaux et surtout à faire la loi, c'est-à-dire nous avons des révolutions démocratiques. C'est bien la preuve qu'il y a un accord de fait dans l'humanité ou qui est en cours, hein, sur l'égalité des droits, mais un accord de fait demande aussi à être fondé. Hein. Pourquoi tenons-nous à ce concept de l'égalité des droits? Comment justifier la déclaration des droits de l'homme? Pourquoi n'est-ce pas simplement une coutume occidentale? C'est un problème vraiment très difficile, mais vos professeurs de philosophie, je leur repasse le bébé, sont là pour vous éclairer et pour discuter avec vous de ce problème. Je vous remercie, j'ai dépassé un peu le temps, j'ai abordé beaucoup de problèmes, je suis prêt à revenir sur tel ou tel point, telle ou telle analyse, tel ou tel concept, tel ou tel exemple, si ce n'est pas compris. Et si j'ai oublié quelque chose de fondamental, signalez-le-moi, on en discute. Bien sûr, un texte philosophique est toujours un texte soumis à la discussion. Merci beaucoup de votre attention et j'espère que nous allons avoir une bonne discussion. Merci.